Alors, nous sommes avec Carl pour une troisième entrevue en quelques années. Bonjour, Carl.
Bonjour, Christian.
Est-ce que tu as envie de nous parler de qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ou dans les luttes auxquelles tu participes depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés?
OK. J'imagine la dernière fois, on avait parlé un peu de ma participation avec les luttes autochtones en Colombie-Britannique. Ben, je continue à faire ça. Puis, depuis 4 ans maintenant, on a commencé à construire sur la terre au camp de réoccupation, qui s'appelle Shutikar, ce qui veut dire l'esprit d'hiver. C'est un camp de réoccupation autochtone de la nation Chutaliyum qui a été installé en mai 2000 pour opposer la construction, le développement d'une station de ski dans les montagnes au nord de Vancouver, à peu près 3 heures de route. Au courant des années, on a fait du support matériel en amenant de la bouffe, puis des batteries, des chandelles, de la gasoline, des choses que les gens ont besoin pour rester dans le bois. À peu près 4-5 ans, un de mes amis qui participe dans le camp depuis le début, Doug Dan, il s'est retrouvé à nous demander si on voulait l'aider à construire une petite cabine pour lui, parce que depuis le début, il restait dans sa tente, puis il commence à être assez vieux. Il a de la retraite, bien sûr, il est proche de 60 ans, puis c'était difficile pour lui de rester dans une tente tout l'été. Il vient l'été à partir du mois de mai, avril-mai jusqu'au mois d'octobre. Il y a un autre, son cousin, qui reste là à l'année longue. Yubi, il est assez tough, là. Il reste à l'année longue en haut là. C'est à peu près 1500 mètres d'altitude. C'est pas si haut, mais la location dans la chaîne côtière, ça fait qu'il y a de la neige jusqu'au mois d'avril-mai. Des 4-5 pieds de neige qui restent jusqu'au mois de mai. L'été, il peut neiger au mois de juillet, au mois d'août. Fait que c'est pour ça qu'il voulait mettre une station de ski en haut là. Fait que je me suis impliqué beaucoup là-dedans. Puis on a commencé à voir comment on pouvait construire en haut là. Fait qu'on a demandé de l'aide à des gens en ville, à Vancouver. Puis on a fait des réseaux de support. On a réussi à 2 ans, on a fini une petite cabine pour Doug, qui est assez petite, 12 par 12, mais qui est très confortable. Un poêle à bois maintenant, il se sent chez lui. Là. On a un beau plancher en bois. Il est très confortable. Maintenant, quand il va, il est vraiment content. À peu près, il y a 2 ans, il m'a montré un site, juste un peu en haut de la côte. Donc, tout est à pic en haut, là. Un peu en haut, il nous a montré un site qu'on pourrait construire une maison d'invités. Et pour les supporters, les gens qui supportent le camp, les invités, pour que les gens soient plus confortables. Et plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pour la journée, mais ils ont peur de coucher dans une tente parce qu'il y a des ours en haut là, il y a des cougars, puis il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'idée de coucher dans une tente avec un petit mur en vinyle. Fait que le fait de construire une place solide avec des murs solides puis un poêle à bois, on a l'impression que plus de gens vont venir. Fait que oui, on a réussi à faire des levées de fonds. L'année dernière, en 2011, on s'est retrouvé à faire un souper levée de fonds pour Shutika. Fait qu'on a parlé de la colonisation du pays. On a Gord Hill, qui est de Vancouver, un Kwakiut, un activiste assez impliqué. Sûrement, les gens le connaissent un peu. Il a parlé à la levée de fonds, au dîner. Puis, on avait un slideshow, des diapositives sur le mur. Puis, ça a vraiment bien été. Puis, moi, j'ai parlé spécifiquement de la participation, des interventions. Je ne sais pas si je devrais utiliser intervention, mais la participation à Shutika anarchiste spécifiquement, puis pourquoi on le fait, c'est quoi la solidarité, pourquoi on partage la même lutte contre l'État canadien. Ça m'a comme aidé à clarifier mes propres idées, pourquoi je fais ça. Puis ça a été intéressant pour ça. On a réussi à ramasser 500-600 $, puis il y a d'autres mondes qui ont donné de l'argent. Fait que en ce moment, la maison d'invités est quasiment finie. Cet été, on va continuer dessus. On va mettre le poêle à bois, on va finir l'isolation, puis l'extérieur, le revêtement extérieur. Puis là, j'espère que ça va être fini d'ici mi-juillet, comme ça il y a des gens qui peuvent vraiment venir puis l'utiliser. En termes de ce projet-là, on a d'autres bâtiments qu'on veut mettre. On a amené un gros bain en fonte il y a 2 ans, au 10e anniversaire. Puis on va construire une salle de bain, une grosse chambre avec un poêle à bois, un bain, un évier. Comme ça peut être utilisé pour faire le lavage aussi, laver le linge, tout ça. Puis ça va être chaud, ça va être confortable. Puis on va installer une grosse tank d'eau chaude sur le poêle à bois pour chauffer l'eau, comme c'est voir de l'eau chaude. Parce qu'en haut là, les conditions sont assez difficiles à vivre. Il y a juste certains gens qui peuvent vivre comme ça, tu sais. Il y a de l'eau froide, puis c'est comme poêle à bois, il faut faire du bois de chauffage à tous les jours, tout ça. Fait que On essaie de trouver des moyens d'impliquer la jeunesse un peu plus pour différentes raisons. Ben, des raisons d'école résidentielle, de colonialisme, de différentes choses, de technologie, de Twitter, puis computer, les vidéogames. La jeunesse, on dirait, ne veut pas vraiment s'impliquer. Aussi, je peux voir qu'il y a un gap de génération entre les jeunes et les vieux, qu'il faut comme travailler dessus pour que les gens se parlent. T'sais. Puis ça, c'est une des choses, c'est vraiment... Ça me fait triper au bout, c'est le fun de voir ça. Puis c'est un projet à long terme. T'sais, souvent, je suis impliqué dans des projets qui sont un événement d'une fin de semaine ou des choses comme ça. Puis ça, c'est vraiment... C'est quasiment générationnel. Ça va durer des années. Puis c'est comme un... Il faut prendre notre temps, puis pas se presser. Puis les choses tranquillement changent. Juste le fait d'avoir construit deux bâtiments nouveaux. Il y a déjà un bâtiment dans le camp qui est une cuisine, qui est assez confortable, mais qui était supposé d'être seulement temporaire. Fait que s'il y a beaucoup de souris là-dedans, les murs n'ont pas été finis, fait que les souris ont déménagé dans les murs. Puis c'est assez difficile à vivre là-dedans. Fait que en construisant des buildings, des bâtiments confortables et solides, bien, on imagine que ça va attirer. Les gens commencent déjà à parler, les cousins, la famille, les gens que Doug connaît. Sur la réserve, les gens parlent beaucoup, puis ça les inspire, puis ça les excite de pouvoir monter en haut-là, puis peut-être l'idée de se construire eux-mêmes une place. Ça, c'est un des projets. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis que je t'ai parlé. Il va falloir que j'y pense.
Tu disais, entre autres, que ça t'avait aidé à clarifier tes idées. Pourquoi tu le faisais?
Oui. Évidemment, pour moi, il y a différents aspects de la liberté. Bien, souvent, la liberté que les gens parlent, c'est « je veux faire ce que je veux, puis dis-moi pas quoi faire ». Puis j'ai réalisé en vieillissant qu'un des aspects de la liberté, c'est de prendre responsabilité pour sa propre vie. En tant que colon, que settler, une personne qui vit... Mes parents sont arrivés dans les années 60 au Québec. J'ai senti une responsabilité de dealer avec la question coloniale parce que j'essaie de me situer dans le temps et dans l'espace réel, dans le sens, dans l'histoire et sur la Terre. Puis en faisant ça, je réalise que, OK, on est des colons, on est des immigrants. Qui qu'on est, où est-ce qu'on est? Bien, on est sur la Terre volée aux Indiens par l'État canadien, par la colonie. Puis on est des immigrants. On est une culture d'immigrants qui viennent de toutes les places du monde. C'est comme, pour moi, une des premières choses en tant qu'anarchiste. Si on veut détruire l'État canadien spécifiquement au Canada, bien, ça fait beaucoup de sens de s'allier aux premières victimes de l'État canadien qui étaient les Autochtones. Spécialement que ces gens-là ont résisté dès le début d'une main de façon, de centaines de différentes façons. Ils ont résisté leur subjugation, la destruction de leur terre, leur communauté, leur culture. J'en ai appris beaucoup en me tenant avec les gens. Puis c'était intéressant parce que d'habitude, quand je me retrouve avec d'autres gens qui font des luttes, c'est comme on a tous notre point de vue à partager tout de suite. Puis les conversations sont vite et sont excitées. Tout le monde veut faire leur point. Ou est-ce qu'avec les Autochtones, c'est plus un processus de se fermer la gueule pendant un bout puis d'écouter pour comprendre, pour commencer à voir d'où ces gens-là viennent puis qu'est-ce qui leur est arrivé parce qu'on ne l'apprend pas ça à l'école ou dans les médias, la TV. Fait que ça, c'est un processus que j'ai apprécié. J'ai rien à prouver, j'ai rien à amener pour l'instant. T'sais. Puis le temps va venir où est-ce que je peux partager mes idées, mes approches, et ce qu'on fait en tant qu'anarchiste et tout ça. Puis... Il y a une autre affaire aussi, quand tu prends le temps de juste connaître les gens, de créer de la confiance et de l'amitié entre les gens, là, les histoires personnelles sortent.
Alors, tu m'expliquais pourquoi tu fais tout ça?
Ouais, il a fallu que je me creuse la tête et le cœur pour répondre à cette question moi-même. C'est définitivement pas une question de culpabilité, mais plus une question de responsabilité. Souvent, dans notre culture, les gens sont responsables de certaines choses, que ce soit... La vie moderne détruit la planète, on a des autos, tout ça, puis on se sent coupable de se sentir responsable, dans le sens de prendre responsabilité au lieu de se sentir coupable. Ça vient sûrement de la chrétienté, mais en tant que colon, en tant que nouveau venu, en tant que colonisateur sur une terre indienne, puis c'est pas quelque chose que j'ai choisi, mais juste être ici et mon activité quotidienne, ça mène à ça. C'est une question de prendre responsabilité pour ma vie, puis... Comme on avait parlé, pour moi, la liberté, c'est beaucoup de choses. Il y a plusieurs aspects à ça, mais un des aspects, c'est d'être responsable pour ma propre vie, puis prendre responsabilité sur où est-ce que je suis et qui je suis. C'est une question pour moi aussi de me situer dans le dans le vrai temps et l'espace, dans le sens, dans l'histoire et la terre. L'histoire, c'est à débattre, on peut dire, mais juste ce qui est arrivé ici dans les 200-300 dernières années, c'est vraiment réel. On voit les marques sur la terre, sur les communautés indigènes, tout ça. Puis prendre responsabilité pour ça, ça me situe comme, ça me donne une grippe du temps et de l'espace. Ça me situe sur la terre au lieu d'une espèce d'espace mental. Ou est-ce que, on est au Québec ou on est au Canada ou whatever. Non, on est sur la terre. Puis on est sur une terre voilée des Autochtones. C'est ça la réalité. Même si c'est une chose que les gens disent, c'est une chose du passé, c'est un processus qui continue maintenant. Puis même s'il n'y a plus d'Autochtones, disons, dans le sud du Québec, comme je disais, dans mon contexte, au BC, c'est vraiment différent d'ici. C'est une différente approche, tout ça. Mais c'est une question de situer. J'y ai pensé beaucoup parce que l'année dernière, on a fait un dîner pour Chutika, qu'on a fait une levée de fonds. Puis à une place, des amis m'ont demandé de parler de mon implication puis de la participation anarchiste en solidarité avec les Autochtones. Puis ça m'a fait penser, il a vraiment fallu que je pense pourquoi je fais ça. Puis j'ai commencé à y penser. Puis c'est un peu une question que jusqu'à un certain point, la lutte des Autochtones est arrivée à nos ancêtres. Ils se sont fait coloniser par différents moyens, par différentes choses, comme sûrement dans mon cas, venant de l'Italie, puis de la France, de l'Allemagne, c'est l'Empire romain qui a détruit les cultures de la terre, les cultures indigènes de l'Europe. Et ils ont perdu la bataille, évidemment. Pour moi, c'est la bataille jamais finie tant qu'elle n'est pas finie. Pour moi, c'est comme non seulement de prendre responsabilité pour qui je suis en tant qu'immigrant et où est-ce que je suis sur une terre volée, mais en même temps, c'est pour continuer la lutte que mes ancêtres ont perdue. Puis je sais que ça les fait sourire. Puis de savoir qu'on aide à empêcher le déplacement de population maintenant dans le temps présent, c'est comme continuer la lutte que nos ancêtres ont perdue en Europe. Parce que s'ils n'auraient pas perdu, la majorité d'entre nous sont encore là-bas. Puis on serait bien chez nous. Puis on n'aurait pas besoin de déménager en tant que réfugié économique ou politique ou whatever. Comme mes parents sont venus de l'Europe, une des raisons majeures, c'est à cause que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ça a complètement détruit les relations locales parce qu'il y avait des collaborateurs avec les nazis. Puis c'était quand même horrible, les relations dans les petits villages après la guerre. Il y avait aussi l'église qui était horrible. Puis il y a beaucoup d'autres raisons. Mon père avait désobéi des ordres dans l'armée française, fait qu'il était sur une liste noire pour l'emploi. Fait que mes parents ont décidé de déménager au Québec. La plupart des gens ont une histoire que c'était pas volontaire, le déplacement. C'était soit des forces économiques ou politiques ou sociales qui les ont fait déménager en Amérique. Puis comme je dis, ben on a perdu la bataille là-bas, mais on n'a pas perdu la guerre. Puis ça, on peut continuer ici, juste pour prendre responsabilité puis avoir un certain honneur. Une des autres raisons, c'est pour prendre responsabilité, mais situé dans le temps et l'espace réel. Mais c'est aussi, comme je disais un peu plus tôt, c'est une question de... En étudiant l'histoire et les cultures indigènes, tout ça, ça m'a fait réaliser que c'est des cultures assez... que je peux admirer jusqu'à un certain point. Ceux que je connaisse, surtout les gens avec qui je travaille au BC, c'était des cultures anarchiques qui étaient décentralisées, qui n'étaient pas basées sur une unité nationale, mais plus sur des réseaux familiales, des réseaux de sang et des réseaux d'affinités. C'est pas mal le genre de monde que je veux vivre dans. Fait que si je peux aider ces gens-là à empêcher la destruction complète et totale, l'annihilation de leur culture, ben, ça me donne l'espoir que peut-être on va pouvoir continuer aussi ou recommencer à construire des cultures anarchiques, décentralisées, puis basées sur la coopération volontaire. Ça, c'est une autre raison. Il y a certaines cultures que peut-être je serais moins enclin à les supporter puis à mettre toute mon énergie dedans, mais les gens avec qui je travaille, c'est vraiment, vraiment intéressant. Les petits groupes, tout le monde est égal, tout le monde a leurs choses à dire, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Tu sais, il y a des leaders, mais dans le sens des gens qui prennent l'initiative et qui inspirent les autres, pas dans le sens de donner des ordres. Ça se voit tout de suite qui est les leaders, puis en général, c'est des femmes et des aînés qui ont encore une connexion avec les vieilles cultures. Ça, c'est une autre raison. Juste, c'est une culture qui vaut la peine de supporter. Entrecroisée avec l'idée de responsabilité, que même s'il y a certaines cultures que je ne suis pas tout à fait d'accord de ce qu'ils faisaient, ça ne veut pas dire que je vais continuer. Je vais supporter les Canadiens, l'État canadien qui les écrase, ou le capitalisme. Fait que ça, c'est deux, trois raisons. J'adore la terre, j'adore la nature, dans le sens la nature de mes relations, pas dans le sens abstrait d'une chose qui existe dehors de moi, mais d'une chose que j'ai des relations avec, que ce soit l'eau, les montagnes ou les animaux, le vent, tout ça. Puis je trouve en reconnectant avec les vieilles cultures, ça me réapprend une façon saine d'avoir une relation avec la nature. Qui fait vraiment du sens. Quand on est à Chutika, on passe les après-midi, des fois, quand on prend un break de travailler, de juste regarder les fourmis, puis les oiseaux, puis ils nous font rire, les écureuils, puis c'est vraiment le fun. C'est comme... Je participe aux luttes urbaines, les choses à Vancouver, tout ça, mais vraiment, mon cœur, il est en... C'est pas la campagne, mais il est avec la nature, puis avec les luttes autochtones. C'est ça qui fait lever le matin. Puis je me sens libre quand je suis dans les montagnes à Chutika. C'est vraiment un bon feeling. Ça donne un goût de liberté. Puis j'invite tout le monde à venir visiter. Au courant des années, à Chutika, il y a des milliers de personnes qui ont passé dans ce camp-là. Des gens d'à travers la planète et de toutes les sortes. Je peux voir tout le monde qui vient en haut-là vraiment prendre ce goût-là. Ils goûtent ce que c'est, les possibilités de vivre librement. C'est sûr que ça c'est haut, c'est bas, comme n'importe quelle lutte, et c'est difficile. Pour ceux qui appellent ça une lutte, c'est pas facile, comme ils disent. Puis on fait ça aussi, comme mon chum il disait, on fait ça pour les futures générations, on fait ça pour les enfants, puis c'est une façon altruiste et individuelle et égoïste, comme ils disent. Et c'est des mots qui font pas beaucoup de sens, altruiste et égoïste, mais c'est ça notre langage. Mais ouais, comme je dis, c'est une question de culture, de communauté, de liberté individuelle, puis de relation avec la terre. C'est une question aussi d'établir une certaine pratique. Comme au BC, on essaie de développer, au BC, mon groupe d'amis, pour être franc, on essaie de développer une pratique qui inclut une résistance insurrectionnelle, couplée avec une pratique de subsistance, essayer de développer tranquillement, ce qui est très lent, mais développer une pratique on essaie de réapproprier nos moyens d'autonomie sur la bouffe, sur les choses comme ça, puis on n'est pas les seuls qui font ça, mais on le sait. Mais on essaie de coupler ça avec la solidarité avec les Autochtones. On essaie de trouver la langue, les vocabulaires pour parler de ça, et c'est très difficile parce que ça devient comme technique. On sépare ça en trois factions, la solidarité avec les Autochtones, subsistance et insurrection. Mais quand tu prends ça comme un tout, c'est difficile d'expliquer ça. l'idée, c'est d'inspirer les gens pour qu'ils fassent de même. Puis... de développer une pratique qui fait du sens, là, qui nous amène l'autonomie dans nos vies. Ça, c'est une autre raison que je fais ça. Là.
Alors, je t'ai demandé où en étaient tes réflexions par rapport à pourquoi tu faisais ça.
Mais comme je disais, pour moi, j'ai réalisé autant que c'est une question subjective, de désir, je dois admettre qu'en étudiant l'histoire, puis en regardant les sociétés autochtones, leur culture, leur organisation sociale, ça m'inspire. Ça m'inspire d'avoir la diversité, puis jusqu'à un certain point, la liberté que ces gens-là avaient dans leur culture, comparé à nous, aux civilisés. Puis il n'y a rien de parfait, c'est certain, mais c'est comme... En même temps que c'est une chose subjective, un désir personnel, en même temps que c'est plus... C'est toute une chose stratégique, comme je trouve qu'en me situant sur la Terre et dans l'histoire, comme je disais, dans le temps et dans l'espace, je trouve stratégiquement, c'est comme j'ai une poigne sur la réalité. C'est comme, OK, on est des immigrants sur la Terre des Indiens volés, puis c'est une question de prendre responsabilité pour ça, au lieu de toujours reporter au lendemain ou dire que c'est une chose du passé ou c'est la faute du gouvernement. Il y a une autre chose aussi que j'ai réalisé au cours des années dans les luttes autochtones, quand les gens prennent la voie légale, il y a souvent un argument qui se fait que les Autochtones ne peuvent pas négocier avec le gouvernement canadien dans les cours canadiennes. Fait que souvent, il y a un argument légal qui se montre que ça prend en anglais, c'est « third party education ». Puis ça veut dire qu'il y aurait une troisième partie neutre, qui n'est non canadien, qui ne serait pas une cour canadienne, qui prendrait soin de médier et de négocier entre les Autochtones et l'État canadien. Mais là, j'ai réalisé que c'est qui fait ça. Il y a des gens qui vont à l'OAS, l'Organisation des États américains, en français, OEA. Et il y a des gens qui vont aux Nations unies. Puis là, j'ai réalisé que ça fait pas de sens qu'un autre État-nation soit neutre quand ces mêmes États-nations ont des peuples indigènes qui le colonisent et qui détruisent leurs terres dans leur propre État. J'ai réalisé que cette troisième partie, c'est nous, les colons, qui vont se mettre, pas nécessairement se mettre entre l'État canadien et les Autochtones, mais qui vont s'allier aux Autochtones pour détruire l'État canadien et décoloniser la place, se décoloniser nous-mêmes en même temps que les Autochtones se décolonisent. Puis si on peut faire ça, bien, on est sur le bon chemin, je trouve. Fait que c'est un peu une stratégie anarchiste contre l'État, mais une responsabilité, se responsabiliser pour la situation qu'on se retrouve. Parce que si on est né ici, on n'a pas vraiment décidé de naître dans une colonie sur la terre volée. Mais en même temps, il faut voir qu'on est responsable de continuer la colonie en continuant d'être Canadien, de payer des taxes puis de participer dans cette économie. C'est un peu une question de responsabilité, une question historique, une question de désir, parce que définitivement, je ne fais pas dans le système industriel capitaliste. C'est vraiment pas ça que je veux vivre dedans. Puis j'ai beaucoup de désir, de relation avec la Terre que je trouve que je découvre plus profondément en alliant avec les Indiens. C'est une des raisons. Il y a plusieurs autres raisons, si j'y pense tranquillement. C'est une question de contexte aussi, parce que où est-ce que je vis en Colombie-Britannique, je m'en vais magasiner dans la ville voisine, puis il y a des Autochtones et une réserve qui sont un peu partout. Il y a une présence assez flagrante dans nos vies, mais elles sont vraiment ignorées, mises de côté. Puis il y a des gens qui me disaient, pourquoi ils s'adaptent pas comme nous, puis ils se pognent une job, puis ils ont juste à s'acheter une terre comme moi, aussi, puis ils sont jaloux. Puis c'est comme, ouais, mais c'est pas le même, ça marche. Là. C'est question de ces gens-là, pourquoi ils s'adapteraient à quelque chose qui a détruit leur terre, leur culture. Puis mais ça revient encore une fois, une question de solidarité. Puis la solidarité, comme on l'expliquait l'autre jour, c'est pas une question de charité. C'est pas une question de « Ah, pauvre petit, t'as besoin d'aide, je t'aide, puis je continue ma vie normale. » C'est une question de reconnaître notre lutte dans la lutte des autres. Les Autochtones, en général, ceux qui sont traditionnels ou qui sont encore connectés à leur culture, leur ennemi principal, c'est l'État canadien. Et en tant qu'anarchiste, ben, on partage le même ennemi et le développement industriel qui détruit la terre aussi, l'eau potable et tout et tout. Fait que, ouais, ça, c'est une autre raison. C'est simplement une question de solidarité pour se reconnaître qu'on partage les mêmes, jusqu'à un certain point, les mêmes désirs, les mêmes ennemis. C'est une pratique que je trouve qui amène beaucoup dans ma vie. J'apprends beaucoup par rapport à ma relation à la terre et à l'histoire. Fait que c'est comme ça manque dans la terre et dans l'histoire, dans le temps et l'espace. Fait que je trouve ça vraiment plaisant de me tenir avec des gens qui se considèrent pas canadiens, qui sont comme non, nous c'est notre territoire, c'est pas le Canada, on n'est pas canadiens. Puis ça fait du bien. Hein. À part ça, pourquoi je fais ça? Ouais, c'est comme je dis, c'est une question de contexte. Si je vivrais peut-être à Montréal, ça pourrait être différent dans le sens de l'implication que j'aurais, mais dans mon contexte au BC, c'est vraiment clair que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Puis au courant des années, avec des amis, avec des camarades anarchistes, on a vraiment, tout le monde s'implique beaucoup plus. Il y a eu des événements comme les Olympiques qui ont connecté les choses ensemble. Une des choses, on parle d'écologie, on parle de l'environnement, mais la pensée écologique, c'est une façon de connecter les choses, de voir les liens entre les choses au lieu des déconnexions, des séparations. Justement, de voir nos connexions avec notre relation avec la colonie, avec l'État et notre relation avec la Terre, puis voir comment toutes ces choses-là sont connectées. Une question. Il y a aussi le fait qu'il y a vraiment une culture. Dans certains peuples autochtones, comme on dit, une culture de résistance très forte, une histoire très longue de résistance à la colonisation, à l'État. Ça m'attire aussi. Il y a différents exemples. Je pourrais penser que, ou est-ce que ça devait être un peu le même dans les vieilles cultures ouvrières, prolétaires, ou est-ce que la question de la violence, la question de la police, la question, ces choses-là vont sans s'en parler. C'est en se tenant avec les Autochtones, on voit qu'on a beaucoup de choses en commun dans ce sens-là. Les gens qui font pas confiance à la police, ils veulent pas dans leur vie, ils veulent pas payer de taxes à l'État canadien, ils veulent whatever, puis c'est un peu comme les anarchistes. Fait que, puis encore, c'est une question de culture des fois, parce que les cultures autochtones sont vraiment diverses, mais ceux que les gens que je travaille avec, en général, étaient très proches de nos idéaux anarchistes. C'est le fun de voir qu'il y a eu des communautés humaines qui actuellement vivaient une certaine forme d'anarchie dans leur vie, sur leur terre, puis que ça, c'est possible de recréer ces choses-là. Ça va être différent, évidemment, mais c'est possible ensemble. Comme je disais, c'est à nous, en tant que nouveaux venus, en tant que colonisateurs, que colons, de prendre responsabilité, puis de créer une nouvelle façon de vivre, une nouvelle relation avec la terre, une nouvelle relation avec les gens de la terre qui étaient ici avant nous, puis de réapprendre à vivre avec la terre, hein, avec respect. Fait que ça, c'est une autre raison. Hein.
Je pense que vous pourriez parler aussi des snakes.
Oui. Fait que plutôt, je parlais du peuple Chitadlioum, qui est en résistance contre beaucoup de projets industriels et capitalistes. Ça, c'en est un exemple que je participe, la résistance contre un développement d'une station de ski énorme. Je ne sais pas si le monde connaît Whistler, mais ça, c'est une station de ski au nord de Vancouver qui est énorme, qui est une ville maintenant de 20-30 000 personnes. Ça monte à 100 000 personnes à Noël, là, durant les vacances de Noël. Ça, Shutika, il voulait faire le Cayouche Ski Resort, il appelle ça, puis il voulait faire un autre Whistler de milliards de dollars de développement. Ça, c'est un exemple de la colonisation actuelle qui se passe sur les terres autochtones au BC. Puis les Snakes, c'est un peuple qui a été reconnu comme éteint, qui a été reconnu comme en voie d'extinction par le gouvernement canadien en 1952. Parce que ce qui est arrivé, c'est que c'est un peuple du sud-est du BC, dans la Slocan Valley. C'est sur le long de la rivière Columbia. Beaucoup de leurs terres ont été inondées par les barrages hydroélectriques dans les années 30, 40, 50, 60. Les plus gros, c'est la rivière au monde qui a le plus de barrages électriques dessus. Ça détruit les pêches de saumon. C'était juste au sud du BC, dans l'État de Washington, Kettle Falls, ça s'appelle. C'était la plus grosse run de saumon au monde. Puis maintenant, il n'y en a plus de saumon à cause des barrages électriques, mais ça, beaucoup de monde ont parlé de ça. Mais ça se passe sur la terre des Snakes. Puis les Snakes sont un peuple qui était reconnu comme le peuple mère du langage Salish, qui est énorme. Le langage Salish, ça part de l'intérieur du BC, des Snakes, puis ça monte à l'intérieur des Chouchouap, puis ça redescend au Chitadlioum, dans la chaîne côtière, puis là, il y a les Coast Salish sur la côte. Le peuple Snake était considéré comme des médiateurs et des elders, des aînés de ces peuples-là, et faisait beaucoup de médiation dans les conflits, originellement. Dès le début de la fin des années 1800, début des années 1900, les intérêts miniers sont arrivés dès que le train a été mis, qui ont traversé les Rocheuses, puis ont été à Vancouver. Ça passait direct dans les Kootenays. Puis à partir de ça, les intérêts miniers se sont mis là. C'est eux qui ont poussé avec le gouvernement du BC puis de Vancouver. Ils ont poussé pour le chemin de fer qui arrive pour faire partie de la Confédération. Mais c'était pour sortir les ressources. Parce que ils ont commencé les mines avant le train, mais toutes les ressources, tous les produits miniers allaient aux États-Unis. C'était vendu aux États-Unis, puis le gouvernement canadien voulait garder l'argent au Canada. Fait qu'ils ont poussé pour le train pour que les ressources sortent à Vancouver, dans le port, ou aillent dans les prairies, puis à Toronto. Ça aille de l'est à l'ouest au lieu du sud. Fait que, une fois que les mines ont commencé, ils ont commencé un processus de génocide incroyable sur les Snakes. Jusqu'à 1920, il y avait des primes sur la tête des Snakes. Les colonisateurs, les mineurs d'or et de cuivre, ils se faisaient payer pour tuer des Snakes. Comme Bob Campbell, un des Snakes, qui a réoccupé sa terre en 1985. Je vais en parler un peu dans une minute. Mais il disait, les mineurs sont arrivés avec les guns, puis les épidémies. Après ça, on a eu les prêtres avec la chrétienté, puis après ça, on a eu l'alcool. C'était vraiment une vague déferlante sur leur culture, leur communauté. Apparemment, ils se sont fait faire une petite réserve dans les Kootenays, mais personne n'a jamais déménagé là parce que c'était un trou, c'est une place que personne ne voulait vivre. Fait que la plupart des gens, après la vague de violence, se sont retrouvés dans l'État de Washington au sud, à Colville, ça s'appelle. Maintenant, il y a une tribu confédérée. Puis il y a 5 nations. Il y a je ne les connais pas tous, mais il y a les Nez-Percés et les Snakes qui restent là. Fait que la majorité des gens, mais en 1986, je pense, sur le côté de la frontière, sur le côté canadien, il y avait une autoroute qui se construisait, une route. Puis on commençait à déterrer des os en construisant la route, un cimetière indien. Les grands-mères puis les mères à cet homme qui s'appelle Bob Campbell, ils lui ont dit « Va sur cette terre-là, arrête le développement, arrête la construction de cette route-là, puis fais sûr que les os ne sont pas bougés. » Fait qu'il est venu en 1986, il a lâché toute sa vie qu'il avait aux États-Unis. Il avait un restaurant, puis il était vraiment occupé, un homme qui a fait bien des choses dans sa vie, puis il s'est retrouvé à venir là, puis il a arrêté la construction de la route. Il a fait sûr que les os restent là. Ils ont réoccupé un morceau de terre drette là, puis ils ont commencé à construire. Éventuellement, le conseil de bande, ou aux États-Unis, c'est différent, mais de Colville, ils ont acheté un petit morceau pour qu'ils se construisent une maison. Fait qu'il y a sa maison sur un morceau de propriété privée qui appartient au conseil de bande des États-Unis. Il y a, sur les deux côtés, il a réoccupé de la terre de la couronne, puis ils ont des cérémonies là, puis tout ça. Fait que actuellement, c'est le camp de réoccupation au Canada le plus prolongé. 27 ans qui sont là, puis qu'il y a une présence. Encore, le gouvernement canadien ne les reconnaît pas. Ils ne veulent pas les reconnaître. Mais c'est une histoire compliquée parce que le temps, vu qu'ils étaient partis pendant longtemps, les deux nations, à l'est et à l'ouest, essaient de d'approprier leurs terres traditionnelles et les réclamer comme les leurs. Bien, ça, c'est les conseils de bande, évidemment, capitalistes, le gouvernement canadien, indien, whatever. Fait qu'ils se battent non seulement contre le gouvernement canadien et beaucoup de colons, mais en plus contre les nations voisines. Fait que ça devient compliqué. Ils sont sous assaut de tous les bords. Puis j'ai des amis qui ont déménagé là. Il y a 4-5 ans, ils ont déménagé un kilomètre, même pas, mais 20 minutes de marche, 15 minutes de marche de Bob Campbell. Si vous allez sur l'Internet, vous pouvez trouver des choses sur les Snakes et sur Bob Campbell. Il y a des vidéos, il y a des choses qui parlent, il parle de son histoire et tout ça. Il y a 2 ans, des amis qui sont anarchistes aussi, comme nous, ils ont commencé à participer avec eux, les supporter, puis ils ont construit avec leur aide. Les Snakes, ils ont construit une grosse pit house, une maison souterraine traditionnelle. Ils ont recommencé, ils ont commencé il y a 20 ans à faire leur danse traditionnelle d'hiver. Maintenant, ils ont vraiment un bel espace. Puis l'automne passé, en 2011, au mois d'octobre, je me suis retrouvé là avec des amis, aller visiter mes amis là. Puis on a participé à construire cette pit house, cette maison souterraine. C'est vraiment un beau building, puis c'est bien fait. On a construit un banc qui fait le cercle autour, c'est une maison ronde avec des poteaux, puis il y a un foyer au milieu, un feu ouvert pour les cérémonies, puis on a construit un banc qui peut fitter à peu près 60 personnes, puis une deuxième rangée plus haut, un autre 60, fait que tu peux mettre, il y a beaucoup de gens qui peuvent rentrer là-dedans. Maintenant, ils ont beaucoup de problèmes légaux, puis ils ont engagé depuis des années des avocats pour aller en cour, pour se faire reconnaître encore par le gouvernement canadien. Jusqu'en 1952, le gouvernement canadien les reconnaissait, mais ils appelaient les « lakes people », les gens des lacs. Puis à cause qu'ils n'ont jamais déménagé sur la réserve réservée pour eux, bien, ils ont juste éliminé la map, puis ils ont arrêté de... Voilà, tout le monde était rendu au sud, à Colville. Maintenant, il y a un renouveau. Déjà, la fille de Bob Campbell a eu un enfant sur la terre du côté du Canada, de ce côté-ci de la frontière. Tranquillement. C'est un projet à long terme, j'imagine, générationnel. Fait que, un peu comme à Chutika, il essaie de voir si la jeunesse veut déménager là puis sortir de la réserve à Colville. Fait que ça, c'est une autre lutte que j'ai participé un tout petit peu, mais j'ai des bons amis qui sont full-on, sont vraiment impliqués là-dedans. C'est intéressant parce que Bob, il s'est retrouvé entouré de la population alternative ou semi-radicale des Kootenays, c'est beaucoup hippie. Fait que Bob, il y a beaucoup de choses qui se passent là, que c'est des choses spirituelles. Ils ont des peyote church, le cercle, les 4 directions. Là, il y a comme une religion autochtone internationale qui se passe. En tout cas, ça va me revenir. C'est des Blancs qui participent avec Bob dans les cérémonies et tout ça. Les gens les supportent, mais ça va pas plus loin qu'un certain point. Ils vont supporter pour la spiritualité puis les cérémonies, mais quand ça devient politique puis une question d'arrêter la coupe à blanc dans le territoire, whatever, ben, il y a quand même beaucoup de support, je devrais pas exagérer, mais C'est intéressant. Puis maintenant, ils ont décidé de construire sur la terre, en dehors de où est-ce qu'ils vivent, en dehors de la place originale de réoccupation, puis de construire des cabines. Fait qu'il va y avoir du support qui va se faire avec ça, des levées de fonds pour des matériaux de construction. C'est un peu comme à Shultikan. Fait que ça, c'est un projet que je vais m'impliquer un peu plus, parce que j'ai des bons amis qui restent là. On va essayer de les supporter de cette façon-là. Fait que ça, c'est une autre histoire. Hein. Shultikan, c'est le deuxième camp ça fait 12 ans maintenant que la place a été réoccupée dans les montagnes. Fait que c'est le deuxième camp le plus long après la place à Bob Campbell, les Snakes. C'est bien de rencontrer ces gens-là.
Tu nous parlais aussi de la tournée que tu as fait avec Franklin Lopez et le film Intive.
Moi, je reste sur l'île de Denman, qui est juste à peu près au milieu de l'île de Vancouver, à l'est. L'année dernière, Franklin Lopez a commencé le tour pour son film Intive. Puis la première projection qu'il a faite, c'était sur Denman. On est venu une gang de camarades, une douzaine de camarades de Vancouver. On était sur Denman avec Frank. Puis là, il a fait une projection. C'est une petite île de 1200 personnes, puis à peu près 60 personnes qui sont venues, puis ont été vraiment intéressées par le film. C'est des environnementalistes en général qui sont venus, mais dans le film, une assez bonne critique du pacifisme. Fait qu'il y a eu des bons débats là-dessus avec les locales sur la question du pacifisme, puis de monter la lutte pour défendre la Terre, parce que juste la vieille stratégie pacifiste, environnementaliste des 30 dernières années n'a pas vraiment porté de résultats. Le film de Frank est bon pour ça, pour questionner ces pratiques-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en débarrasser complètement, mais il faut avoir une diversité, puis un peu plus d'acceptance de stratégies, de tactiques un peu plus fortes et qui ont un peu plus de muscles. Hein. Puis une fois que Frank a montré le film sur Denman, on était dans les Kootenays, sur le territoire des Snakes, montré le film, on est parti avec lui, on a tous chip-in pour le gaz dans sa van. Puis on a fait trois projections. Frank, ici, dans trois villes, Castlegar, Nelson, puis Winlaw. C'était vraiment intéressant. Comme je dis, la population là-bas est environnementaliste, mais encore une fois, pacifiste, hippie. C'est vraiment, il y a eu des débats très intéressants après. On dirait qu'à chaque projection, il y a un vieux bonhomme de 60 ans barbu qui rageait sur la critique du pacifisme. Puis il nous gueulait, il y en a un qui est sorti de la salle vraiment enragé à cause de cette critique. Mais il y a des gens intéressants. Il y a une femme Ndoukhabar. C'est des chrétiens qui viennent de la Russie, qui sont communautaires, pacifistes et anti-étatiques. Ils ne payent jamais de taxes. Ils ne veulent pas payer de taxes à cause que l'État fait la guerre. Puis une femme dans sa soixantaine qui s'est battue pour les forêts, pour l'environnement. Elle a grandi avec des parents Ndoukhabar. Puis c'était vraiment drôle à la fin du film, parce que le film promouvoit une certaine résistance armée puis à la destruction de la planète. La femme s'est levée puis elle disait: «Ah, il y a des choses qu'on fait qu'on va pas parler. On va pas parler de ces choses-là. Mais moi, ce qui m'inspire, c'est quand une femme s'est mise dans un arbre, elle a fait un tree sit, puis elle a protégé la forêt en s'accrochant à un arbre, puis tout ça. Puis c'était vraiment cute la façon que la femme parlait de... Il y a des choses illégales, c'est bien, mais on n'en parle pas, puis ces choses-là. C'était vraiment comme une vieille hippie, tu sais, qui parlait comme ça. Puis il y a eu des bons débats après ça. C'est vraiment comme ouvert la question de: «OK, la planète se fait détruire. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça, il faut commencer à réciter un peu plus sérieusement.» Ouais, c'était bien cette tournée avec Frank, comme un bon échange personnel avec les gens de la place. Mes amis qui restent dans les Kootenays, ça leur a fait rencontrer des gens intéressants qui sont venus pour la soirée de projection, qu'ils se sont gardés en contact, puis maintenant ils font des choses ensemble. Fait que c'était bien.
Peut-être qu'on pourrait dire aussi, juste nous parler des autres trucs qui se passent dans le Colombie-Britannique, ou dans la soi-disant Colombie-Britannique, puis qui t'inspirent ou qui sont importantes à discuter.
Bien, il y a des luttes dans la ville de Vancouver qui se passent constamment. Je ne vis pas à Vancouver, mais j'ai beaucoup d'amis et de camarades qui vivent là, qui sont impliqués jusqu'au cou, qui font plein de choses. Fait que souvent, je vais à Vancouver pour participer ou les supporter, amener mes idées. J'ai participé un petit peu, vraiment pas beaucoup, mais il y avait un espace social que des camarades ont ouvert. J'aime pas vraiment le mot camarade, mais je l'utilise de temps en temps. Mais les amis qui ont ouvert un espace social à Vancouver, 12th and Clark, ça, c'est vraiment, c'était bien. Ça a été ouvert spécifiquement pour la lutte contre les Olympiques en 2010. Ouais, ça a duré un an et demi à peu près. Et finalement, ils se sont fait fermer par la ville. Mais ça vient avec des discussions, des débats, puis des films qui se montraient, puis des dîners. Ça, c'était le fun d'aller là pour ça. C'est vraiment un besoin flagrant pour un espace social à Vancouver. J'apprécie qu'à Montréal, il y a une couple d'espace, puis il y a comme la belle époque et tout. C'est vraiment bien pour que les gens se rencontrent, puis dans une place neutre, puis tout le monde peut l'utiliser. Puis ça fait des liens, puis ça agrandit le cercle. Là. C'est bien. Faudrait que j'y pense un peu. Là. Il y a tellement de choses, comme je disais, qui se sont passées. Disons, je peux parler un peu right now sur l'île de Vancouver, juste proche de où est-ce que je vis. Il y a une mine de charbon qui veulent ouvrir, le gouvernement, une corporation qui s'appelle Compliance Corporation. Ils veulent ouvrir une mine de charbon, actuellement plusieurs mines. Une fois qu'ils ouvrent la première, une mine souterraine, ils vont avoir une mine à ciel ouvert qui va s'ouvrir automatiquement sans revue environnementale. Puis, parce que c'est un processus gouvernemental. Puis deux, trois autres mines de charbon qui vont s'ouvrir. C'est un énorme gisement de charbon. Dans la vallée de Comox, parce que je vis, il y a une histoire de mine de charbon. Il y avait Dunsmuir, qui était un baron du charbon, un capitaliste qui contrôlait les mines dans les années 1890 jusqu'à un peu avant ça, son père. Puis là, le fils, il a continué jusqu'en 1920, ils ont tout vendu. Mais ils ont vraiment détruit la place et pollué la place. Il y a beaucoup de cadmium là, à cause des industries de pulpe et de papier. Mais ça, les mines, ça a vraiment laissé une vraie tache sur la place, là, toxique. Ils veulent réouvrir ces mines-là. Les gens locaux sont vraiment opposés, ce qui n'est pas étonnant. Personne ne veut une mine de charbon dans leur cour arrière. Fait qu'il y a comme tranquillement une opposition de plus en plus forte qui se forme. Jusqu'à date, ça a été pas mal l'approche typique environnementaliste. On écrit des lettres, on va dans les réunions, dans les consultations du gouvernement, du ministre de l'Environnement et tout ça. Mais les gens, tranquillement, deviennent de plus en plus cyniques avec cette approche-là. Fait que c'est un bon temps. Right now, on est en train d'organiser le 1er juin, on va avoir un petit rassemblement anarchiste contre la mine de charbon. Sur les îles, puis pour amener une autre approche sur la résistance contre la mine pour un différent ton, une différente pratique et une stratégie tactique pour arrêter la mine, utiliser l'action directe et il n'y aura pas de lobbying, il n'y aura pas de négociation, de compromis. Ce qu'on essaie d'amener à la population locale, c'est que on est tous différents, on a tous différentes capacités, différents tempéraments, mais il y a une chose qu'on devrait tous être d'accord, c'est qu'il n'y aurait pas de mine de charbon. Le reste, c'est ouvert. Puis il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, même si c'est des pacifistes, ça, s'il y en a assez, ils veulent pas la mine. Fait que c'est intéressant de voir où est-ce que ça va aller. Ça, c'est une des luttes qui se prépare en ce moment. La mine n'a pas encore été approuvée, c'est une mine qui a été proposée, mais tranquillement, toutes les choses se mettent en place pour la compagnie. Justement, à la fin de la semaine prochaine, il va y avoir un meeting des actionnaires et de la compagnie qui se fait à Vancouver, fait qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer à propos de ça. Les gens de l'île de Vancouver, des petites îles, puis de Vancouver vont venir, puis ils vont avoir une manifestation. Je ne sais pas exactement ce qui a été planifié. Je suis en visite au Québec, fait que j'en manque un peu en ce moment, mais ça va être intéressant. Puis ça va être juste la semaine avant qu'il y ait le gathering, là, qu'il y ait le rassemblement sur Dalman, fait que ça, c'est le fun, là, ça qui se passe. Oui, il va peut-être avoir beaucoup de gens qui parlent de mettre un camp permanent sur le site de la mine ou sur le bord de l'autoroute pour que ce soit un peu plus public, juste pour bloquer la route, le chemin d'accès à la mine. Je pense qu'il y aurait énormément de support pour ça de la population locale, parce qu'il y a quand même une tradition des combats pour les forêts des années 80-90. Il y a beaucoup, c'est la désobéissance civile en général. Les gens utilisent, ils arrêtent, s'assisent à la route, ils se font arrêter, ils vont parler au juge. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui supporteraient une action du genre, puis qui supporteraient un camp avec la logistique que ça prend, puis tout ça. Ça, c'est une des choses qui se passe avec la mine de charbon. Parlant de rassemblement anarchiste, mais il va en avoir un, je pense, le 14 septembre. Je pense que c'est la fin de semaine d'après le Salon du livre anarchiste de Victoria. La fin de semaine d'après, il va y avoir un rassemblement anarchiste sur Denman Island au mois de septembre. Fait que les anarchistes de ce monde sont invités. En général, c'est bien d'avoir les gens comme régional, comme ça on peut continuer à travailler ensemble, mais si les gens sont en voyage ou ils viennent au BC dans ce temps-là, bien, ce serait bien le plus, le mieux. C'est le fun de rencontrer les gens, plus d'idées, puis il va y avoir des ateliers organisés, des choses, mais les gens sont bienvenus d'amener leurs propres choses puis de prendre contact. Je pense pas qu'il y a un website encore, un site web pour ça, mais éventuellement, ça, les gens vont savoir. il va y avoir une façon de contacter. Puis c'est souvent de bouche à oreille, puis entre camarades, puis en différents cercles et milieux. Ça, c'est une autre chose qui est planifiée en termes d'activité anarchiste. Il va y avoir ça qui se passe à la fin septembre, à mi-septembre. Au courant des dernières années, bien sûr, il y a eu les Olympiques. Christian était à Vancouver dans ce temps-là, puis je pense qu'on en a parlé dans notre interview un petit peu. Depuis ce temps-là, il y a eu le support pour John Graham, qui s'est retrouvé en dedans, il a, je ne sais pas combien il a pogné, mais il est à vie, je pense. Hein. Ça, c'est continu. C'est une cause perdue dans le sens qu'il est en prison à vie, là, right now. Tout ce qu'on, la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir une révolution pour détruire toutes les prisons pour le libérer. Fait que c'est une approche qu'on peut avoir pour l'instant. Mais il y a quand même du support à sa famille, à ses filles qui restent à Vancouver. Puis, au courant d'une plusieurs années de support à John, il y a des camarades qui sont devenus amis avec ses filles. Puis, c'est bien, hein, c'est intéressant.
En fait, là, on en était rendu à parler des pipelines puis de la lutte contre les pipelines en soi-disant Colombo-Britannique.
Je parlais des différentes pipelines qui se font installer dans le nord du BC pour sortir les ressources puis envoyer ça en Asie en général. Mais ça va aussi dans le sud. Il y en a qui vont aux États-Unis. Puis une énorme opposition qui se forme contre les pipelines qui transportent du sable bitumineux parce que les gens veulent pas de tanker, de gros bateaux qui transportent le pétrole à cause de Exxon Valdez en 1989. Et tout ça, ça affecterait toute la côte. Fait que les Autochtones et les pêcheurs, les gens qui vivent de la pêche commerciale, le tourisme, les environnementalistes, les kayakers, le monde qui font du kayak, ça, tout le monde est opposé. Fait que c'est assez intéressant comme lutte environnementale, puis ça rallie les gens ensemble à travers le nord du BC et de la côte. Il y a une lutte qui se fait contre une des pipelines qui, comme je mentionnais, qui transporte du gaz naturel. Puis il y a un groupe autochtone de la nation Gitxsan et des Wet'suwet'en. Ils sont alliés ensemble. Et j'ai rencontré l'automne passé un homme qui s'appelle Mel Basil. Il se définit un peu comme anarcho-indigène. Il a sa propre façon d'interpréter l'anarchisme. Et il est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de lui parler de la façon qu'il voit les choses. Il y a vraiment une façon différente qui est non-européenne, et c'est pas politique, c'est plus basé sur la culture, la spiritualité. Il parle souvent de... Nous, on parle pas des droits, on parle des responsabilités envers les futures générations, envers la Terre, envers nous-mêmes. Il est venu, il y avait une démonstration organisée contre les mines et les pipelines à Vancouver, au début octobre, je pense que c'était mi-octobre. Puis Merle est venu du Nord pour parler, et fait que la démonstration avait commencé au mouvement d'Occupy, sur Downtown, en centre-ville de Vancouver. Il y avait déjà le stage tout organisé, fait que tout le monde a parlé sur le stage contre les pipelines, contre le développement dans le Nord. Il y a eu une manifestation qui s'est produite, puis une marche sur la place du Canada, où est-ce qu'il y avait une conférence entre les Autochtones et les industries. Toutes les Autochtones qui sont pour l'industrie, qui veulent faire de l'argent, les conseils de bande, les universitaires, les développeurs, faisaient partie de la conférence. Fait que la marche a été à cette conférence pour protester contre la participation autochtone au développement industriel. Puis, des petites confrontations avec la police. Pas grand-chose, mais c'était vraiment intéressant de voir le fighting spirit, comme ils disent, des gens. On s'est organisé pour que Mel y rencontre notre ami Doug Dan, qui est à Chutika. Et cet été, Mel va venir avec sa famille à Chutika pour parler des camps, spécifiquement des camps de réoccupation. Parce que je me souviens plus de leur nom, mais Mel et ses familles, ils ont formé une société guerrière qui est traditionnelle, qu'ils avaient avant. Puis dans le temps, ils se couvraient de peinture noire et rouge, leur corps. Maintenant, ils ont des jackets, des manteaux noirs et rouges, avec les manches rouges, puis le manteau noir, avec un crest en arrière, avec Windlid. Je ne devrais même pas essayer, mais c'est le nom de la société guerrière, qui, eux, c'est un peu comme nous, avec la mine de charbon, il n'y aura pas de pipelines qui vont passer à travers notre territoire. Ce qui est intéressant de cette lutte, c'est que beaucoup d'environnementalistes l'ont abandonné parce qu'ils disent que c'est déjà approuvé, fait qu'eux, ils veulent juste aller avec les légiférer, aller en cours, puis challenger le gouvernement sur le Enbridge pour pour les sables bitumineux, mais il y a vraiment pas. Au début, il y a eu certaines OGN, des organisations ONG, qui sont arrivées puis qui ont participé la première année, mais les gens de la place, Merle et ses familles, ont décidé qu'ils veulent plus travailler avec les ONG parce que ils vont se faire vendre éventuellement, comme l'accord des forêts boréales ou l'accord de la forêt du Grand Ours et tout ça.
Les espèces d'ententes entre les groupes environnementalistes et les compagnies.
Ouais, ouais, c'est ça souvent qui arrive. On s'assoit à la table, puis là, on fait des deals, les portes fermées, puis oh, le deal a été signé. C'est vraiment pas ce que les gens voulaient au début. Maintenant, Mel a décidé, ben pas seulement lui, mais ils ont décidé, il n'y a plus d'OGN qui viennent. Du 6 au 10 août, il va y avoir le deuxième camp d'action sur leur territoire. V'là un an ou deux, je ne sais pas la date exacte. Ils ont construit une maison de bois rond assez grosse, très bien faite, sur la route exactement de la pipeline, qui est à peu près, je pense, c'est 18 mètres de large, la route de la pipeline, ou peut-être plus que ça. Mais ils ont construit direct sur la route. Puis ils disent qu'elle va pas passer la pipeline. Puis même s'ils la détournent ou quelque chose, ils vont l'arrêter. Puis ils ont déjà fait une coupe d'action directe parce que il y avait des crews, des équipes de travail pour la compagnie de la pipeline qui étaient arrivées. Puis ils ont rejeté dehors. Ils ont dit non, vous venez pas travailler ici. Puis ils ont même eu du support des bûcherons locales avec leur gros truck qui sont contre la pipeline parce qu'eux aussi, c'est des pêcheurs, chasseurs, puis ils veulent pas de pétrole qui passe dans la région. Fait qu'il y a peut-être, je ne sais pas exactement la situation, mais il y a peut-être des alliances avec la population blanche locale, ouvrière, qui sont contre la pipeline. Ça, c'est une lutte qui se transforme tranquillement. Le camp d'action, c'est du 6 au 10 août, puis il y a une bonne gang de Vancouver puis de la côte qui vont y aller. J'ai des amis qui ont été l'année dernière au premier camp. Moi, j'ai pas été. J'étais occupé à Chudiker à construire. Mais cet été, je vais mettre le temps de côté. Puis je vais y aller en haut là, rencontrer les gens. Ça va être intéressant. Puis je trouve Merle, c'est un Christ de bon gars. Sa sœur, elle vit à Victoria. Mélanie, je pense son nom. Merle et Mélanie. Puis il y a son autre frère, Warner. Lui, j'ai pas rencontré, mais j'ai entendu jusque des bonnes choses de lui. Fait que ça, je suis excité d'aller rencontrer ces gens-là, des vrais guerriers. Ils sont vraiment des gens autonomes qui reconnaissent pas le Canada. Ils disent même, notre territoire, c'est pas le Canada, c'est pas le BC, c'est notre territoire. Puis il y en aura plus de développement qu'on n'accepte pas. Puis on va utiliser l'action directe pour arrêter ça. Comme je mentionnais, Mel et sa famille, ils vont venir cet été au camp. Je devrais mentionner que quand je buvais un café, on buvait du café, moi, mon chum, puis Doug, puis Mel. Mel et Doug, ils se parlaient, puis ils se rencontraient. T'sais. Mon chum Doug, il a des problèmes d'écoute, il est un peu sourd d'une oreille. Faut parler fort avec lui, fait qu'il peut pas aller dans des foules, parler publiquement. Ou lui, c'est un doer, il va sur la terre depuis que 1975, il bloque les routes, puis c'est un guerrier de la nation Stadium. Puis, mais on l'a fait rencontrer Mel, puis un à un, dans un petit café, puis on parlait pendant une bonne heure. Mel, il parlait d'un rêve qu'il a eu, où est-ce que dans son rêve, il sortait de sa cabine qu'ils ont construit pour arrêter la pipeline. Puis dans la neige, il y avait des traces de raquettes qui allaient dans toutes les directions. Et ces directions-là menaient à une autre camp de réoccupation, à une journée de distance ou deux jours de distance. Fait qu'il y avait un rêve que la totalité du territoire du BC était couvert de camps de réoccupation, qu'on pouvait marcher d'un camp à l'autre en une journée. Ça, c'est un rêve à achever. Ça va prendre du temps, mais ça serait vraiment bien si chaque nation commence à s'y mettre. Puis ils ont du support solide, la solidarité solide, puis des ressources qui sont fournies, qui sont disponibles. Parce que ça, c'est un des problèmes, c'est souvent les ressources, que ce soit la gasoline pour les transports ou que ce soit les matériaux de construction. Je veux dire, il y a beaucoup d'arbres, là. On peut commencer à couper des arbres, mais ça, c'est encore un autre objet. Couper des arbres, ils appartiennent à la reine. Fait que on connaît l'histoire au Nouveau-Brunswick avec les Mi'kmaq, puis comment ils se sont battus juste pour couper une coupe d'arbres. Puis c'est comme ça, c'est pas fini cette histoire-là. Ça va être le fun de les supporter puis de les rencontrer cet été. Ça, c'est une chose que j'ai hâte de voir. Puis ça va être le fun quand la gang du Nord vienne à Chutika, puis ils commencent à rencontrer Yubi puis Doug, puis voir le camp, puis les cabines qu'on construit, puis les inspirer un peu. Pour continuer, puis ça va inspirer nos amis autochtones. Ils voient qu'ils font la bonne chose. C'est ça. Vraiment, ils donnent un bon exemple au reste des nations, des gens autochtones. Fait que c'est jusqu'à date, c'est un peu tout ce que je sais de la lutte contre les pipelines. Je veux dire, il y en a beaucoup à dire, mais ça fait juste commencer. Ouais.
Je Je ne sais pas si, avant de conclure cette entrevue, s'il y a des choses que tu, auxquelles tu penses que tu voudrais ajouter.
Ben, tu me demandais au début de l'interview ce que j'ai fait dans les dernières deux, trois dernières années, depuis la dernière interview que tu avais faite avec moi. Il y a une chose que j'ai bien aimée l'été passé, j'ai une amie qui fait partie d'une coopérative de terre sur Denman Island. Je l'ai aidé à construire une maison en... Je pense en français on dit une maison en boue, là, une cob house. C'est un mix de glaise, de sable et de paille. On a construit une structure avec des arbres, des poteaux et des beams sur le top. Puis on a construit deux étages, 20 par 20, une fondation avec des roches. Mon amie, elle faisait partie d'un groupe qui s'appelle les Mud Girls. C'est un groupe de femmes qui se sont mis ensemble de Laskiddy Island, de l'île Laskiddy. Puis c'est vraiment intéressant. Je suis sûr qu'il y a des gens au Québec qui connaissent un peu ça, mais c'est vraiment intéressant comme modèle d'organisation. C'est des femmes qui se sont organisées pour confronter la domination des hommes dans le sud de la construction, puis que c'est les hommes qui construisent les maisons. Fait que les femmes se sont mises ensemble pour construire des maisons naturelles. Ils aident les gens pauvres. Des fois, ils travaillent pour des gens riches. Des fois, ils travaillent. Puis il y a juste deux, trois personnes qui se font payer. Puis il y a des garderies pour les enfants organisées, comme ça les gens qui ont des enfants, ils peuvent venir participer. Il y a des gens qui prennent soin des enfants durant la journée. D'autres gens viennent volontairement travailler, mais c'est comme un cours gratuit pour apprendre à construire de cette façon. Avec mon amie, elle s'est construite une maison. Là, c'est rendue aux deuxième étape, deuxième été à faire le plâtre à l'extérieur. À l'intérieur, elle va faire un plancher en glaise, plancher en earthen floor, ça s'appelle, un plancher en terre, on l'a vu, mais c'est vraiment, je vais apprendre, je vais l'aider au mois de juin, puis on va, t'as plusieurs couches de gravel, tout ça, ça monte, puis là, tu mets de l'isolation, soit de la paille ou différentes choses recyclées. Après, c'est une couche de glaise avec du sable, puis une autre couche, ben une couche de sable, couche de glaise, puis là, à la fin, tu finis avec une belle couche de glaise, avec peut-être une teinte dedans, de la couleur. Puis là, tu finis ça avec l'huile de lin et après ça, de la cire d'abeille. Puis ça devient imperméable et dur. Puis c'est un beau plancher naturel. Puis ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte d'apprendre ça. Fait que l'été passé, au mois d'août, les Mud Girls sont venues pour aider. Ils ont offert de l'aide à mon ami. Il y avait 15 femmes, 18 femmes qui sont venues. Deux hommes ont participé aussi. Il y avait 20 personnes pendant deux semaines. Ils s'y sont mis puis ils ont toutes monté les murs en glace. Puis c'est vraiment beau. C'est vraiment un objet d'art, sa maison maintenant. Et puis ça, c'était une des choses que j'ai faites dernièrement. J'ai un peu appris à travailler là-dedans. Puis j'ai un peu travaillé 2-3 ans dans la construction. Puis j'ai un peu des habiletés pour faire ça, mais je suis pas professionnel. Mais c'est le fun d'apprendre puis juste de le faire. Comme la maison d'invité à Choutika, c'était comme dans ma tête, pas de plan, juste un dessin rough de ce que ça va avoir de l'air. Puis on l'a fait, là, c'est debout, c'est solide. Puis la neige l'écrase pas, c'est un A-frame comme un chalet suisse. Là. Vraiment pointu, c'est 18 pieds de haut, à peu près 12 pieds de large par 16 pieds de long, avec un gros loft, un plancher, un deuxième étage. C'est le fun. Ouais. Une chose que je voulais mentionner à propos de la construction, c'est le premier bâtiment qu'on a construit pour Doug, la petite place, la petite cabine que maintenant il vit dedans l'été. On a commencé à ramasser des matériaux à Vancouver, puis on a amené ça, puis j'ai compté 23 personnes qui ont participé à construire cette petite cabine. C'est vraiment un effort collectif. Ça soit ramasser des roches dans la montagne pour faire les fondations, que ça soit trouver des 2x6 en ville, de recycler, donner un peu d'argent pour le gaz. Voilà, j'ai compté 23 personnes qui ont participé à faire la petite cabine. C'est la façon de faire les choses, je trouve. Des fois, ça pourrait prendre moins de gens. Là. C'est pas tant d'efforts que ça, mais plus de monde participe, plus je trouve que c'est solide. Et les gens se sentent impliqués, puis c'est vraiment la façon de le faire. C'est la même chose avec la maison d'invités. Il y a beaucoup de gens qui ont participé, qui ont donné de l'argent. Comme c'est pas mal moi le constructeur, là. Mais c'est incroyable hein, comment la partie. On a eu l'été passé, au mois de juillet, 18 personnes de Vancouver, la plupart des anarchistes, sont venus pour aider à construire cette maison-là. Fait qu'ils ont aidé de toutes les façons de transporter de la terre, des roches, de creuser, de couper des arbres. Puis c'est vraiment bien. Ouais, on construit. Puis ça, je trouve, on apprend à construire des ponts et à défaire des ponts. Pour pas dire d'autres choses, mais OK. Ouais. Ça, je trouve ça bien, hein, parce que souvent les gens disent « Ah, les anarchistes, ils veulent juste détruire. » Puis c'est « Oh oui, ça, c'est un travail très important, détruire, mais construire, c'est bien aussi. Ça, on a besoin de construire. C'est bien de participer à ces choses-là. Puis je trouve justement, comme je disais à mon chum, je remercie mon ami autochtone, Doug, de m'offrir une opportunité de prendre responsabilité d'être au Canada, sur la Terre-Vallée, de pouvoir aider, tu sais, de m'offrir une opportunité de prendre responsabilité pour ma vie, whatever. C'est une des choses que j'apprécie. Hein. Ben, en entendant l'enfant qui parle en arrière, c'est comme mon chum, il dit, on fait ça pour le futur. Hein. On construit pour le futur, pour qu'il reste encore de l'eau, puis l'autonomie, l'eau à boire, puis une base de subsistance pour les futures générations. On fait ça pour nous aussi, parce que, mais définitivement, pour les futures générations aussi. Parce que souvent, on pense, ah, on est tellement peu, puis c'est tellement lent, mais ça vaut la peine.